Nous sommes mercredi 19 février 2025 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Zergy.
Salut.
Et nous allons faire, donc pour cette émission de rentrée, hein, puisque nous sommes à la première émission de la saison 25, alors je rappelle qu'on fonctionne en demi-année, hein, donc ça fait 12 ans et demi, en gros, donc c'est quand même pas trop mal.
À 25 en 2025, pas mal, hein.
On est pas mal, ouais. Je pense que là, maintenant, on peut revenir sur des saisons qui font un an, comme ça.
Ouais, c'est
on
bien.
On a recalé le truc. Bref, nous allons parler de Boomer Shooter, cette petite tendance, alors c'est une tendance de fond, hein, c'est pas un truc... C'est pas la grosse tendance du moment, mais on a quand même retrouvé quelques shooters bien rétro, et dans leur design, et dans leur look, et parfois même dans leur principe, généralement par des petites équipes, mais il commence à y avoir des équipes de taille un petit peu plus importante qui s'y mettent, donc voilà, le sujet est...
Ouais, Id Software, un petit studio, je sais pas si vous connaissez.
C'est un petit, ouais, petit indé d'Id Software. Voilà, mais on va commencer, alors non pas par un tour de table de l'actu, même si on a une petite actu dont il faut qu'on parle effectivement, parce que c'est assez rigolo. Pas rigolo. Ça fera pas marrer, quoi. On voulait faire un petit récapitulatif sur ce qu'on sait de la Nintendo Switch 2, puisque sous la pression populaire, Nintendo a craqué, et nous a livré un premier trailer dans lequel on n'a pas appris grand-chose.
Ouais, alors pression populaire, je suis pas sûr, hein, quand c'est pour annoncer à la fin qu'il y aura des tests en avril, ouais. C'est déjà prévu. Hein.
Je sais pas, c'était quand même assez suffisamment proche des histoires de leaks ou je sais pas quoi pour qu'on puisse se dire « Ah, peut-être qu'ils ont un peu chié dans la colle ».
Alors à mon avis, c'est le genre de truc de com que t'as prévu depuis un moment, et en gros c'était prévu que ce soit début 2025, peut-être qu'ils l'ont sorti deux semaines ou un mois plus tôt parce que... Ouais. Il y avait les leaks, mais en fait, on l'aurait eu quoi qu'il arrive,
je pense
en février ou plus tard.
C'est vrai que c'est quand même assez peu probable que ce fût un... Tu vois, juste pouf, ça y est. Enfin, il y a quand même un peu de travail derrière.
Ouais, parce que derrière, t'as un site pour t'inscrire aussi sur les hands-on, avec une date limite au 17 janvier pour les inscriptions. Il y a quand même des trucs qui ont été préparés derrière, donc en soi, à mon avis, c'était déjà prêt depuis un moment, et ils ont juste attendu que Noël soit passé pour annoncer une nouvelle console, quoi.
Ce qui est un peu logique, surtout que la Switch se vend encore par camion entier.
Ouais, maintenant c'est plus des camionnettes, tu vois, c'est des Laguna. Hein.
Ouais, mais je veux dire, j'avais vu un superbe graphique de Oscar, à qui on fait des gros bisous, qui disait, mais en fait, la DS sur sa dernière année était en moins bonne forme que la Switch sur sa dernière année.
Ouais, je crois qu'ils espèrent battre le record de la PS2. Hein.
Bah, le record de la PS2, je pense qu'il va tomber, ça y est, pas de soucis. Le record de la DS, c'est pas gagné.
Je crois que la PS2 est devant la DS, hein. Parce que Sony met à jour les chiffres régulièrement pour éviter de se faire passer devant. Après, je crois que la Switch est plus vendue aux États-Unis que la PS2 pour l'instant.
Oui, je serais pas étonné. C'est peut-être au Japon où il y aura une...
Japon, c'est déjà fait.
Ah, Japon, c'est déjà fait. Ouh, ouais. Putain. Donc il reste que l'Europe.
Ouais, et puis... Pas le quoi.
On va y arriver. Et les restes du monde. Bref, donc, concernant la Nintendo Switch 2, ce qu'on a pu voir, c'est que c'était globalement le même concept...
Ouais, c'est la new Switch XL.
new qui Switch a un de Wii Funky Kong mode. Elle est un peu plus grande. Du coup, ouais. Au niveau... Si, je crois qu'elle est un peu plus grande que la première. Alors, je sais pas ce que ça va donner au niveau de la du confort de jeu. C'est du poids, de la taille. Faudra voir. Le pour moi, la limite haute, c'est le Steam Deck. Hein. J'en ai un et le porter, au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre.
Je sais pas à quel point elle est plus grande, ça c'est sûr, puisqu'on a vu que l'écran était plus grand, les Joy-Con étaient plus grands, et c'est pas juste comme la Switch et la Switch OLED, où finalement c'est juste le bezel, donc le petit liséré autour de l'écran qui est beaucoup plus petit, là c'est vraiment l'écran qui est plus grand. Donc faudra voir effectivement ce que ça donne, il y a toujours un dock, qui a priori fait toujours pas grand chose, en tout cas on n'a pas eu d'informations particulières sur le sujet. Ce sera rétro-compatible... y compris a priori avec les jeux physiques, hein, de ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire que le trailer n'était pas très clair, mais ça a été confirmé derrière par alors, soit Nintendo Europe, soit Nintendo of America, je sais plus lequel, mais que ce serait compatible avec les jeux physiques, sauf quelques jeux qui seraient potentiellement incompatibles. Je pense plus à des accessoires, moi genre Nintendo Labo, je serais pas étonné que ça ne fonctionne pas. J'ai pas vu trop d'autres trucs parce qu'a priori c'est toujours un écran tactile de ce que j'ai compris.
Ouais, ça ils enlèveront pas. Mais c'est vrai que Nintendo Labo, il me semble que les accessoires étaient prévus pour la taille de la Switch.
Ouais,
si celle-là est plus grande.
Même déjà sur la Switch OLED, c'est potentiellement un peu galère parce que de temps en temps t'as des bouts de carton qui couvrent un peu l'écran. Toi, tellement le truc était calculé.
C'est pas grave, ils sortiront juste des nouveaux sets Nintendo Labo.
Nintendo Labo 2, le retour. J'espère que c'est comme ça que ça s'appellera. Ou la vengeance, non c'est mieux, c'est Nintendo Labo 2, la vengeance. Il y a eu une espèce de... Alors, il y a un port jack, ça c'est une très très bonne nouvelle.
Qui disparaît sur d'autres devices portables.
Qui a disparu quasiment partout, hein, parce que chez Apple il n'y en a plus. Sauf sur iPad, je crois, et encore, parce que je ne serais pas étonné que ça ait disparu entre deux. Les téléphones, ça disparaît de plus en plus, ce qui est quand même un peu pareil, un petit peu dommage.
De quoi qui a disparu ? Là, la prise de jack ?
Les ports jack.
Ah oui, ouais, c'est un peu con.
Bon, là, il y en a un, donc on va pas se plaindre. Il y a un port USB-C sur le dessus.
Ouais.
Ah oui, oui, parce que quand il jouait branché, c'est en mode nomade, mais branché, genre en scred au boulot, d'avoir le port, avoir le port de charge en dessous, c'était pas terrible.
Ouais, et puis en plus, quand tu joues en mode chevalet, tu pouvais pas la charger, donc je suppose que ça n'a pas d'autre utilité que ça, il y a des gens qui ont spéculé que ça pourrait éventuellement avoir d'autres fonctionnalités, rajouter des trucs, j'en sais rien. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que, voilà, il y a un port USB sur le dessus, les Joy-Con ne sont plus clippés, ils sont maintenant magnétiques, donc elle ne fait plus snap, elle fait clac.
Ouais, d'ailleurs, il y a la question de la durée de vie des... du petit bitonio sur lequel tu plantes ton Joy-Con, est-ce que ça tiendra assez longtemps ou pas ?
Ben, c'est pas des connecteurs standards, mais il me semble qu'il y a un certain Cyrard qui avait dit qu'ils avaient des connecteurs comme ça sur un truc en particulier qu'il a lu au boulot, et que c'était plutôt solide et plutôt bien fait, en fait, et plus ça faisait plutôt très quali. On
va voir si ça marche sur la durée, parce que moi j'ai un téléphone au bout de 4 ans, il a du mal à charger, hein, le port USB-C.
Ouais, mais après ça se... C'est vrai que bon, de toute façon, c'est le genre de truc où c'est compliqué d'arriver à faire quelque chose. Il y a quand même plein de petites pièces, quoi qu'il arrive. Et bon, moi, ce que j'espère, c'est qu'ils auront retenu la leçon, c'est-à-dire que les Joy-Con sont magnétiques, mais j'espère qu'ils seront aussi all effect, c'est-à-dire avec des sticks magnétiques, parce que c'est vrai que là, les histoires de drift, c'est quand même très 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 pénible. Hein.
C'est pas impossible qu'ils aient fait attention à ça, vu que ça leur a coûté un peu d'image de marque et ça leur a valu quelques jugements d'associations de consommateurs dans différents pays. Donc.
Ouais, je serais pas très étonné.
Un petit peu malin.
On a eu confirmation aussi qu'il y avait, alors ça s'est vu dans le trailer, c'était pas si évident que ça, mais ça s'est vu un peu, qu'il allait y avoir un mode souris pour les Joy-Con.
Alors à quoi ça va servir ? C'est une très bonne question.
Ben écoute, je joue à Civilization 7 en ce moment, et sincèrement, un petit mode souris, je serais pas contre.
Ah, c'est pas faux.
Il y a quelques jeux, je pense, où ça pourrait bien s'adapter. Je rappelle que, par exemple, l'atelier du jeu vidéo, très très bon jeu d'ailleurs, de Nintendo, te propose de brancher un clavier et une souris au jeu. C'est-à-dire que tu y joues avec ta manette quand tu joues normalement. Tu peux tout faire avec la manette, mais en fait, le jeu te conseille d'utiliser une souris pour placer les différents éléments, pour les nommer, et ainsi de suite. Donc... Peut-être que faut s'attendre à d'autres jeux de ce type-là. Alors, je doute qu'on puisse faire du FPS un peu bourrin comme ça, hein, mais pourquoi pas. Peut-être le retour du navigateur.
Ouais, et puis même en termes d'utilisation du clavier, ce sera un peu plus confort aussi, je pense.
Ouais, potentiellement, ça peut l'être, parce qu'effectivement, alors c'est pas si mal que ça, mais c'est vrai que c'est pas fou. Pour tous les petits chanceux qui ont été tirés au sort, si vous n'êtes pas inscrit, je crois que vous pouvez encore le
faire.
Non,
c'est trop tard, c'est jusqu'au 17 janvier.
C'est pas de bol. Il y a un end-zone qui est organisé, je crois, au Grand Palais, au Petit Palais, je me souviens plus.
Grand Palais, pas un des deux, mais c'est au même endroit, hein, ils sont en face de l'autre.
C'est ça. Du 4 au 6 avril, donc il y a le 4 après-midi, 5 matin, 5 après-midi, 6 matin, 6 après-midi, c'est ce que je crois du vendredi au dimanche. Par contre, c'est par tirage au sort, moi j'ai perdu, par exemple. Je crois que Jean, qui avait essayé aussi, a perdu.
Moi, je me suis pas inscrit, du coup, j'ai pas perdu, mais j'ai pas gagné non plus.
Voilà, donc c'est un peu emmerdant.
J'ai oublié.
Il y a pas d'événement presse. En tout cas, on n'a pas été invité nous à un événement presse. Donc Nintendo, si nous avez oublié, on vous fait des bisous quand même.
On ne pourra pas peser en exclusivité la Switch 2.
C'est vrai que la prochaine fois, il faudra emmener une balance de cuisine. On sait maintenant ce qu'il faut emmener, un pied à coulisse, une balance de cuisine pour avoir vraiment tous les...
Ce qui est dommage, c'est que encore une fois, voilà, une nouvelle année consécutive avec Mortal, nous n'irons pas manger les petits fours de Nintendo
c'est
ensemble.
Ça, c'est, voilà, c'est vraiment...
Ça me rend un peu triste, hein, ça fait des années qu'on l'a pas fait.
Les traditions se perdent.
C'est ça.
Bon, en même temps, on n'est plus invité. Hein.
On n'est plus invité. En même temps, je pense qu'il n'y en a plus. Hein.
Oui, c'était ça, surtout parce qu'il n'y a plus de 3.
Il n'y a plus de 3, donc a priori, il n'y en a plus. Par contre, il y a quand même d'autres événements presse au cours de l'année auxquels on n'est pas invité non plus, et ça, c'est un peu triste. Avant, on était invité à celui-là, c'était un peu là où il y avait tout le monde. Là, je pensais sincèrement qu'il allait y avoir un événement presse, mais il me semble me rappeler qu'en 2017, c'était... il n'y avait pas d'événement presse déjà, on n'avait pas été invité.
Si, il y avait quelqu'un du dojo qui était invité. Simplement, la blague de vous pourrez pas poser la Switch, c'est parce qu'il y avait quelqu'un du dojo qui s'était amené avec une balance, c'était pas toi, d'ailleurs.
Si, mais je m'étais amené avec une balance, mais pour moi, on n'avait pas été invité, on s'était inscrit normalement.
J'ai pas le souvenir qu'il nous ait parlé d'un... On a été invité comme pour les events. Après, est-ce que c'est aussi parce qu'ils voulaient faire un truc grand public et ils ont aussi invité plus de presse grand public qu'à leur événement post 3 ?
Aussi parce que c'est vrai que alors l'événement Post 3 était quand même assez orienté presse spécialisée, les autres événements étaient très 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 généralistes.
C'est presse spécialisée, influenceurs et partenaires, j'imagine.
T'as Maisons et Jardins, t'as
écoute, Automoto. Tu te déguises en Julien Chiez, je suis sûr ça passe.
J'aimerais éviter d'en arriver à ce genre d'extrémité, si c'était possible.
Ouais, parce que Julien Chiez, les extrémités, il y est arrivé lui par contre. Surtout à celle de droite.
Ah bon ?
Désolé.
Mais c'est pas possible, je ne comprends pas.
Bref.
ça n'arrive jamais.
Eh ben si.
Ça n'arrive à personne. Voilà, bref, donc on a fait le tour des informations qu'on a officiellement, c'est-à-dire des choses qu'on peut confirmer. Il y a encore quelques parts de mystère, puisqu'il y a un bouton dont on ne sait pas à quoi il sert, en dessous du bouton Home, si je dis pas de bêtises, il y a quand même... un bouton sans label à un endroit. On n'a toujours pas vu, on ne sait toujours pas s'il y aura un Pro Controller 2, même si a priori les Pro Controllers devraient être compatibles puisqu'il n'y a pas de grosses nouveautés sur la manette en dehors de effectivement ce bouton supplémentaire dont on ne sait pas vraiment à quoi il sert. Voilà, on n'a pas eu beaucoup d'autres informations.
On n'a pas le prix, on n'a pas de date, mais ça on le saura en avril.
On a un Nintendo Direct le 2 avril à 15h, et je vous rappelle que vous pouvez aller sur nintendodirect.sunapu.net si vous vous rappelez pas du nombre de dodos que ça fait d'ici là, mais c'est beaucoup de dodos. C'est, voilà.
C'est encore dans un mois et demi. Hein.
C'est ça. Alors il y a Kirby qui nous dit sur le chat, et le Mario Kart. Bah ouais, mais le Mario Kart, en fait, on sait pas grand chose. On sait que c'est pas Mario Kart 8. On a fait quelques déductions en mode il y a l'air d'y avoir 12 participants sur la piste, peut-être même un petit peu plus. Il y a des animations supplémentaires, c'est des circuits qu'on connaît pas. Il y a il y a eu quelques spéculations sur le sujet, mais encore une fois, on n'a rien d'officiel. On a juste pu voir en fonction des images et faire 3-4 déductions, mais...
Ouais, il y a un redesign de Donkey Kong aussi.
Qui apparemment a choqué pas mal de monde.
C'est pas mon Donkey Kong.
Alors c'est quoi ton Donkey Kong ? Parce que celui-là, il ressemble quand même beaucoup au Donkey Kong de la Super NES. Hein.
Plus au Donkey Kong de Donkey Kong, le jeu d'arcade, j'aurais dit. Donkey Kong de Rare.
Le Donkey Kong de Super Mario Kart, il ressemble pas mal à ça. Hein.
Oui, mais moi quand je pense Donkey Kong, c'est celui de Rare.
Ah oui, qui est un petit peu différent.
C'est celui de Mario Kart SNES, c'est Donkey Kong Junior.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Oui, du coup, c'est ça, effectivement, c'est
Donkey Kong
Junior.
De Donkey Kong Country TV Show.
Ah oui, mais celui-là.
C'est l'horreur.
Ouais, non, mais s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on fasse pas ça. Bref, donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait de la Nintendo Switch 2 pour l'instant. Évidemment, en fonction de ce qui va tomber, on vous tiendra au courant, quoi qu'il arrive.
Là, ça va être spéculation. Spéculation. Moi, j'ai l'impression que dans les leaks, on avait plus d'infos qu'on a eu là. Mais j'ai aussi hâte de savoir s'il y aura des petites particularités. J'espère surtout qu'on aura une interface qui sera un chouïa plus pratique sur l'eShop. Sur l'eShop, quel enfer.
Bah, c'est-à-dire que il y a peut-être en fait plus que des questions techniques, même si les questions techniques vont à un moment se poser, hein, savoir effectivement sur quoi ça va tourner. On sait qu'il y a de bonnes chances, ce sera rétrocompatible, donc il y a quand même de bonnes chances que ce soit du Nvidia derrière.
Bah, c'est un partenaire avec qui ça a bien marché. Hein.
Si c'est rétrocompatible, oui.
Alors la rétrocompatibilité n'était pas si gagnée que ça parce que le système d'origine, l'API de la Switch qui s'appelle NVN, Nvidia Nintendo, elle a quand même quelques petites particularités qui font que c'était pas gagné. Donc là, je sais pas comment ça tourne, mais la plupart des gens qui sont un petit peu spécialistes ou des développeurs avaient dit ça va peut-être être un peu compliqué à faire. apparemment ils ont réussi. Alors est-ce que ce sera une rétrocompatibilité parfaite, ou est-ce qu'il y aura effectivement 5-10% des jeux qui tourneront pas ou mal, je ne serais pas choqué.
Je me pose aussi la question, est-ce que ça va être comme sur PS5 et Xbox Series X, où certains jeux profitaient de gains de puissance pour proposer des optimisations framerate ou de résolution, par exemple?
C'est pas impossible, la question c'est est-ce que ça va se faire gratuitement, entre guillemets, c'est-à-dire juste... Est-ce que ça va être natif? C'est-à-dire tu mets ton... Tu mets ton Wolfenstein 2 qui est capé à 30, et ben en fait là il va se mettre à tourner à 60 parce qu'il y a juste plus de patates disponibles et puis c'est tout. Ça fera comme si t'avais overclocké ta Switch originale. Ou est-ce qu'il faudra obligatoirement un patch, auquel cas bah, tous les éditeurs ne repasseront peut-être pas à la caisse pour faire ça. Parce que bah, mine de rien, même pondre un patch, même avec l'aide de Nintendo, même avec les guidelines et autres, bah, ça coûte un peu d'argent pour un jeu que t'as déjà vendu il y a 3-4 ans. C'est le beau geste, mais... Voilà,
oui,
je pense
puis en
que...
plus, il y a beaucoup de jeux sur Switch. Hein. Enfin, là, oui. On parle de 8 ans de console. Après, je pense qu'il y a des jeux qui en bénéficieront. Tears of the Kingdom ou Xenoblade 3, qui sont des jeux, assez costauds et qui sont peut-être ceux où les problèmes techniques se voient le plus.
Bah, c'est
peut-être tout soit très bien. Hein.
Les jeux qui sont finalement, entre guillemets, en fin de vie de la console, qui sortiront entre... qui sont sortis dans les 6 derniers mois et qui sortiront dans les 6 ou 7 prochains en fonction de quand est-ce que la Switch 2 sort, je ne serais pas choqué que les développeurs fassent un petit effort au sens le jeu est toujours d'actualité, il y a moyen qu'il se vende pour les gens qui achètent une Switch 2 ou que les gens souhaitent le garder, il peut y avoir des DLC derrière, donc ça peut avoir un intérêt pour un jeu qui est sorti il y a 5 ans. Genre est-ce que Mario Odyssey, il y aura un petit boost sur Switch 2?
Il y a un intérêt à avoir un boost sur Switch 2 pour Mario Odyssey aussi. Hein.
Oui, bon, là en l'occurrence c'est peut-être le mauvais exemple, mais tu vois, genre Breath of the Wild, il pourrait y avoir un petit boost.
Ouais,
est-ce que
exemple.
C'est vraiment intéressant? C'est un jeu qui est sorti il y a 8 ans. Pour la démonstration, pourquoi pas, mais voilà.
Déjà 8 ans. Oh la vache.
Ah ouais, ça nous rajeunit pas.
Faut presque faire un remake bientôt, quoi.
Eh oui.
Oui, d'ailleurs, je pense que c'est beaucoup de remake, hein, la Switch 2. Vu la direction que prend le jeu vidéo actuellement.
Oui, de ça, de toute façon.
Alors moi je pense que Metroid Prime 4 ce sera sur Switch et Switch 2. Hein.
Oui, il y a moyen, oui. Mais ça du coup la question se posera, est-ce que la version Switch 2 sera différente de la version Switch, ou est-ce que la version Switch 2 ce sera juste la version Switch mais avec un petit patch qui va booster les perfs?
Mettre la version Switch. Sur Switch t'auras le choix entre 60 FPS ou 1080p et sur Switch 2 t'auras les deux.
C'est pas impossible. Voire même plus.
Moi,
hein,
moi je pense que... Vous parlez de Metroid Prime 4 là?
Oui, oui.
Oui.
Potentiellement. Non mais il va pas sortir sur Switch, laissez tomber.
Je sais pas, hein. Il a quand même été annoncé sur Switch. Hein, donc.
Je pense surtout que depuis le temps de développement, il a été fait pour la Switch et ils l'ont pas... Bah, après, j'en sais rien parce que je suis pas dedans, mais...
Si ça se trouve...
Bébé.
Si ça se trouve...
Ah bah, ça peut faire un bon jeu de lancement pour,
ah oui, bah oui,
pour montrer les qualités de la console aussi. Hein.
Ben, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous propose de faire une première petite pause musicale avant d'entamer notre sujet Boomer Shooter.
C'est bien, on fait une transition que... FPS vers FPS.
C'est ça, on est pas mauvais. Hein.
Ouais.
Ne tentez pas de reproduire ça chez vous, encore une fois. Donc on va écouter un petit morceau de la bande originale d'un jeu qui est pas ouf, mais la BO est très très bien, on en reparlera peut-être un petit peu après. C'est Wrath Aeon of Ruin. Alors oui, ça ressemble à un album de Iron Maiden, mais non, c'est un jeu vidéo. C'est composé par monsieur Andrew, alors je sais pas si c'est Ulschult ou Ulschult, donc voilà, je vous le
dis. Bon, c'est un allemand, quoi.
C'est pas sûr, parce qu'il s'appelle Andrew. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Le morceau s'appelle The Blood Pits, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. Thank you. Et nous voilà de retour.
Tour.
Pour parler de boomer shooter, donc il va falloir revenir un petit peu sur l'histoire du shooter, l'histoire surtout du design du shooter, c'est-à-dire quelles sont les idées derrière ces shooters classiques qui ont été un petit peu remis au goût du jour récemment. Et donc on a des gens qui se sont réinspirés de design un peu plus ancien, parce que le FPS est un genre qui évolue, ça existe depuis plus de 30 ans maintenant. Donc forcément il y a des choses qui ont bougé, il y a des lignes qui ont bougé, il y a du design qui existait, qui n'existe plus, ou qui a évolué, ou qu'on a un petit peu oublié. Et aujourd'hui, on est en train, basiquement, de redécouvrir certains principes de design. Alors il y a des gens qui l'avaient fait bien avant, il y a eu quand même des précurseurs sur le sujet, ou des gens qui n'ont jamais oublié ces racines-là. Mais voilà, il va bien falloir commencer quelque part. Bref, donc, au commencement était Doom.
Enfin, mais avant, il y avait Wolfenstein 3D.
Voilà. Alors, Wolfenstein 3D, en dehors du fait qu'on peut buter des nazis.
Oui, c'est important.
Ce qui est important. Finalement, ça correspond, entre guillemets, à... Enfin, c'est quand même un design qui est pas hyper intéressant par rapport à ce que fait Doom derrière. Doom, c'est assez, entre guillemets, assez simple, finalement. C'est des niveaux labyrinthiques, ça ressemble beaucoup en fait à du dungeon crawler finalement, du dungeon crawler en temps réel, mais du dungeon crawler quand même. C'est-à-dire que c'est un peu donjon dragon quoi. Il y a des monstres, les monstres planquent des clés, alors les clés sont planquées dans les décors, mais quand on les ramasse généralement il y a des monstres. Ça permet d'ouvrir des portes, il y a des zones secrètes, voilà. Doom c'est ça, c'est des grands niveaux, pas forcément très simples à naviguer. Parce que c'est donjon dragon,
et en fait on joue à la fois guerrier et magicien, sauf que le magicien il a un flingue.
Mais voilà, ça résume très très bien, ça résume très bien le truc. Mais t'as le même système que Donjons et Dragons, hein. C'est monstre clé porte, hein. Finalement, il y a pas.
Voilà, sauf que tu peux pas essayer d'éviter le combat en interagissant avec les monstres. Non, tu vas leur casser la gueule.
Non, alors tu peux quand même éviter un certain nombre de monstres. Hein. Généralement, on ne tue pas tous les monstres à l'intérieur. À l'intérieur d'un niveau. On a tendance même à se limiter à essayer de pas tout buter. Il y a surtout pas mal de secrets à découvrir, donc c'est des niveaux qui sont compliqués, puisque de temps en temps, bah, t'appuies sur un interrupteur à un endroit, puis en fait, ça va aller déclencher une porte ou un mécanisme qui est carrément à l'autre bout du niveau. Donc ça exige souvent d'aller revisiter tout le niveau pour comprendre, bah putain, j'ai appuyé sur un interrupteur, c'est passé quoi? Ah bah oui, ok, là, et maintenant, il y a un escalier.
Bon, c'est... Est-ce qu'il y a des murs invisibles, enfin, des murs intangibles?
Oui, c'est Dark Souls.
Le truc qu'il faut flinguer avec une bombe?
Non. Des murs invisibles. Des portes cachées, oui. C'est assez connu d'ailleurs, mais généralement elles se voient, c'est-à-dire c'est pas comme dans Dark Souls où c'est vraiment des murs au pif.
Oui, c'est comme les murs de Zelda qui ont une craquelure où il a
tué la bombe. C'est exactement ça. T'as aussi, et là encore c'est Doom qui a apporté ça, des archétypes d'armes. C'est-à-dire que c'est un FPS donc il y a des flingues. Donc t'as généralement le pistolet qui est peu puissant mais un peu ton dernier recours, le premier truc que t'as. Puis bon, globalement pour les ennemis de base ça marche encore pas trop mal. T'as le fusil à pompe. Ça c'est l'arme très importante, donc un gros spread, donc ça veut dire que quand on est loin d'un ennemi, c'est pas très très rentable, mais quand on est prêt, on lui fait des gros dégâts, et on peut même éventuellement faire des dégâts à plusieurs ennemis, puisque ça fait une espèce de cône de dispersion qui est un peu plus bourrin. La mitraillette, donc généralement c'est le pistolet, mais qui tire très vite. D'ailleurs, il me semble que dans Doom, c'est les mêmes munitions, je crois, pour la mitraillette et le pistolet, si je dis pas de bêtises. C'est pas... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de FPS assez vieux où, en fait, c'est les mêmes munitions. T'as le lance-roquette. Alors, lance-roquette, lance-grenade, de manière générale, lance-explosif.
Peu de munitions, mais gros dégâts. C'est surtout ça. Possibilité de se faire des dégâts à soi-même.
Du rocket jump, on en parlera avec Quake, mais... Mais voilà, il commence à y avoir des petits trucs un peu marrants comme ça. Soit ça explose à l'impact, soit ça explose au bout d'un certain temps, ou alors une combinaison des deux. Je sais que le lance-grenade de Quake fait ça. C'est-à-dire que si la grenade atterrit sur la gueule d'un ennemi, ça explose tout de suite. Si elle atterrit à ses pieds, elle explose au bout d'une ou deux secondes. Doom, c'est un petit peu différent. Il me semble que c'est juste de l'explosion à l'impact, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et alors Doom fait ça, tout le monde ne fait pas ça, tu as parfois des armes un peu différentes, il y a notamment des lasers, des choses comme ça, mais Doom a le fusil à plasma. Alors en fait le fusil à plasma c'est un truc un peu particulier, puisque en fait les grosses bouboules bleues que ça envoie ont un petit effet comme une espèce de micro-explosion. Voilà. Donc ça fait des gros dégâts, mais un petit peu plus localisé. Tu peux te tirer dessus, mais c'est plus compliqué. Contrairement au lance-roquettes où effectivement là tu peux te fumer la gueule assez facilement.
Il y a aussi le big fucking gun.
Oui, c'est ce qui est devenu un grand classique dans ce genre de... dans ces shooters un peu classiques, d'avoir une arme un peu ultime. Ça ressemble, là, du coup, on est plus dans une mécanique, je trouve, de shoot them up, où, tu sais, t'as une espèce de bombe pour nettoyer l'écran, quoi. Ça revient un peu à ça.
Ça.
Voilà, Doom, c'est aussi des ennemis avec des comportements simples, mais prévisibles, et surtout stéréotypés.
En masse.
Mais tu as des ennemis, genre les Pinky, qui sont les espèces de gros démons à cornes, espèces de gros bœufs, là. En fait, eux, ils sont très cons, ils t'attaquent pas à distance, ils te foncent dessus. Donc ils te courent après, très vite, mais la seule chose qu'ils font, c'est de foncer dessus. Les soldats vont avoir plus tendance à rester à distance et à te tirer dessus. Les imps, donc l'espèce de les démons un peu basiques, vont te tirer dessus quand ils sont à distance, mais peuvent te faire mal, peuvent te donner des coups quand ils sont tout près, mais ils avancent relativement lentement. Voilà. À chaque fois, l'idée, c'est d'avoir un comportement type, simple, identifiable.
On va pouvoir exploiter pour progresser et les vaincre.
Exactement. Progresser, puisque l'idée derrière, alors dans Doom surtout, on verra qu'il y a d'autres jeux qui ont apporté d'autres trucs, mais dans Doom, l'idée, c'est surtout le crowd control, c'est-à-dire que pour survivre, faut tirer sur le bon ennemi, au bon moment, et avec la bonne arme, souvent. Alors, c'est pas toujours le cas, mais t'as souvent des armes qui sont plus efficaces sur certains types d'ennemis. C'est un design qu'on retrouve beaucoup dans Duke Nukem 3D, d'ailleurs, où t'as des armes qui sont plus efficaces sur certains ennemis que d'autres.
Comme des Pokémon.
Exactement, c'est un système de pierre-feuille-ciseaux, en vrai. Hein. Tu te retrouves, l'ennemi qui a beaucoup d'armure, généralement, va être sensible aux explosifs, pas tellement aux mitraillettes. Inversement, t'as des ennemis qui ont très peu d'armure, les explosifs ça leur fera pas grand chose, mais le fusil à pompe ça va leur faire très mal. T'as souvent une arme un peu universelle qui casse un peu la gueule à tout le monde, c'est ton pistolet, ta mitraillette, ton machin qui fait un peu mal à tout le monde, qui se débrouille. Et souvent, l'idée ça va être de prendre des décisions très rapidement, c'est-à-dire prioriser ce qui est le plus dangereux pour toi immédiatement, et surtout essayer de tenir les ennemis en respect, comme on disait, c'est des comportements d'ennemis simples, mais il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et puis surtout, comme t'as une vie limitée et qui se régénère pas toute seule, chaque dégât, c'est pas sûr, c'est quasi définitif, quoi. Sauf si tu trouves des packs de vie ou autre c'est méthode ça. De soin.
C'est là aussi où tu as le grand classique du FPS des années 90 qui a un petit peu disparu entre deux, qui est le t'as ta vie et ton armure.
Ouais.
Ça, c'était quasiment tout le monde. Hein. Mais la vie ne se régénère pas, effectivement, faut aller ramasser des points de vie. Ramasser des points d'armure, et puis après, bon, t'as des systèmes divers et variés qui font que ta vie descend plus vite que ton armure, ou inversement, enfin bref, t'as des petites particularités en fonction des jeux, mais voilà, donc les grands principes de design de Doom, c'est à peu près ça. Alors, on nous dit, il y a aussi la tronçonneuse dans Doom, c'est vrai que globalement, t'as quand même des... Voilà. Mais les armes un peu délirantes ne sont pas forcément la marque de fabrique de Doom.
Oui, c'est vrai que c'est quand même plutôt raisonnable, enfin, Doom est connu pour son fusil à pompe, quoi.
C'est ça, et Doom et Doom 2, c'est-à-dire que t'as le shotgun et le double shotgun qui use les munitions deux fois plus vite, mais qui du coup fait deux fois plus de dégâts. Mais finalement, t'as rien de fou à part effectivement le BFG qui sort un peu de l'ordinaire. Le fusil à plasma qui est un truc un peu bizarre, mais voilà, t'as pas de truc délirant. Là où tu vas avoir des trucs délirants, c'est plus pour les autres shooters, et notamment Duke Nukem 3D. Alors, qui est moins connu maintenant, c'est marrant quand tu parles aux jeunes de Duke Nukem 3D, ça leur fait pas toujours.
En plus, c'est marrant, j'ai découvert que Duke Nukem à la base c'était un jeu de plateforme.
Oui, Duke Nukem 2, 1 et 2 sont des jeux de plateforme, et Duke Nukem 3, donc Duke Nukem 3D, hein, c'est le truc.
C'est un FPS à la Doom. Hein.
C'est un FPS.
D'ailleurs, les FPS à l'époque ça s'appelait pas des first person shooters, ça s'appelait des Doom-like.
Exactement. Tellement le jeu a été. C'est pour ça que je dis c'est pas des Wolfenstein-like, hein, finalement.
Ouais, non, bien sûr. C'est Doom le type mythique, hein. C'est lui qui est porté partout. Hein.
C'est ça, c'est pas le premier, mais c'est vraiment clairement celui qui l'a perfectionné, qui l'a amené jusqu'au bout d'un certain type de design, en tout cas.
Surtout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste aussi un design en termes de jeu, il y a aussi un côté esthétique, parce que. T'as une ambiance souvent un peu glauque, des ennemis un peu démoniaques, une bande son métal. C'est des choses qu'on retrouve aussi dans les jeux dont on parlera après dans la deuxième partie. Je pense qu'en plus du gameplay, il y a aussi l'esthétique qui peut aussi rappeler pour Doom.
Il y a clairement un côté direction artistique, c'est-à-dire qu'effectivement, tu fais pas un... Je pense que tu fais pas un boomer shooter qui se déroule dans une ville, enfin tu vois, ça n'a pas de sens. Tous ces jeux un peu mythiques des années 90, tous ces Doom-like étaient entre guillemets pas très réalistes, je mets des très gros guillemets, hein, c'était pas le. c'était pas le but. Mais tu regardes tous les jeux Build Engine, je pense à Blood, Duke Nukem 3D, Shadow of the Triad, il y a quand même eu beaucoup de ces jeux qui sont, effectivement, tu combats des démons, des zombies, des monstres en tout genre. Mecton vient de nous rejoindre. Ah, faites du bruit pour Mecton.
Ouais, Mecton.
Ça, c'est des surprises comme on les aime. Mais visiblement, il n'a pas de micro.
On nous signale aussi que l'appellation Doom-like, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui reprenaient le moteur de Doom.
Alors, il y a beaucoup de jeux qui... En fait, les moteurs de jeux de ce type-là, c'est pas... je pense que ça devait pas être si évident à construire que ça, surtout qu'ils tournent à une vitesse raisonnable. Donc, effectivement, il y a plein de jeux qui reprenaient le moteur de Doom, il y a plein de jeux qui ont repris le moteur de Duke Nukem 3D, notamment le Build Engine, qui s'appelle le Build Engine. Et en fait, les jeux Build Engine étaient connus pour leur côté un peu irrévérencieux. C'était un peu le... La signature, c'est Duke Nukem 3D, quoi. Il y a des, comment dire, des prostituées courtes vêtues à qui tu peux donner des petits billets pour qu'elles agitent leurs petits tétons, quoi. C'est vraiment, c'est ça le Build Engine, hein. C'est toujours des trucs un peu particuliers.
C'est un l'humour beauf, en fait.
C'est ça, c'est l'humour beauf, et c'est pareil, alors on parlait de trucs un peu particuliers, Duke Nukem 3D, alors certes ça se passe dans une ville, mais tu combats des policiers cochons, des extraterrestres, des navettes spatiales, enfin voilà, t'es pas dans le démoniaque, t'es plus dans l'extraterrestre, mais voilà.
D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que quand Duke Nukem va revenir avec Duke Nukem Forever des années après, on va se rendre compte à quel point, waouh, en fait c'était une autre époque en termes d'humour.
Mais... Non seulement c'est une autre époque, mais en plus, finalement, dans le contexte de Duke Nukem 3D, ça marche encore à peu près, mais dès que tu le sors de ça et que tu le mets dans un truc en 3D hein, qui ne reprend plus la direction artistique d'un Duke Nukem tout en pixels, très irrévérencieux, avec des gros blocs carrés, bah finalement ça marche plus tellement, quoi.
Ça.
C'est assez étonnant. On a, dans la même lignée, même si ça commence à se différencier un petit peu, il y a Quake aussi, Quake et Quake 2.
C'est quoi la différence entre Quake et Doom, en termes de... de philosophie de design. Alors je sais que Quake est en 3D, ce qui n'est pas le cas de Doom en réalité.
C'est ça. Doom est un jeu en 2D.
Doom, on ne peut pas viser. On ne peut que se déplacer. Je crois qu'on peut même... je sais plus si on peut sauter dans Doom.
Alors dans Doom, on ne peut pas sauter. Parce que, en fait, c'est un jeu plat. En fait, c'est un jeu 2D. Basiquement, Doom, c'est pas en 3D. En fait, c'est une projection en 3D d'un jeu intégralement en 2D.
Oui, c'est ça. Quake, tu peux viser dans tous les sens, du coup, contrairement au premier Doom.
C'est ça, Quake déjà c'était en vrai 3D, ce qui change quand même pas mal de choses. Tu retrouves les un petit peu les kinks, que j'ai envie de te dire, de id Software, c'est-à-dire le mélange entre des démons, des zombies, du médiéval, du gothique, voilà, tout ce que tu disais en termes de DA, tu vois, où il faut absolument voilà, il faut qu'il y ait des pentacles un peu partout, mais en même temps que ce soit un truc un peu moderne. Je dirais que la grosse différence entre Doom et Quake, en dehors de l'aspect 3D qui fait quand même une sacrée différence, c'est que Quake t'as un côté un peu moins labyrinthique et peut-être un peu plus immédiat et je dirais plus rapide.
Et est-ce qu'il y avait déjà le multi dans le premier Quake ou c'est arrivé plus tard?
Il y avait déjà
du 3.
Alors le 3 oui, multi. Évidemment. Le 1 et le 2 pour moi il y avait un mode LAN à l'origine.
Doom aussi, hein, t'avais
Doom aussi, oui. Tout à fait.
D'ailleurs, dans les années 90, ça a mis à terre pas mal de réseaux.
Ah ouais? Oui, parce que c'était un peu bourrin.
C'est marrant, oui, pour moi c'était un jeu solo.
Ah ouais, non, t'as un mode multi hein, sur Doom. Sur la version PC en tout cas.
Ouais.
Mais oui, Quake a tendance à être beaucoup plus rapide en fait. C'est-à-dire que c'est surtout les modes de déplacement ont énormément changé entre Doom et Quake. Finalement, Doom, tu marches assez vite, le personnage marche assez vite, mais comme tu peux pas sauter, comme tu peux pas te tourner, enfin tu vois, tu peux pas straffer en te tournant. T'es obligé de tourner ou d'avancer ou de straffer, tu vois, t'as quand même une quantité de mouvement assez limitée finalement dans Doom, alors que dans Quake là l'objectif c'est que le mouvement aille vite, quoi. Donc là tu peux sauter, tu peux courir, tu cours vraiment très 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 vite dans Quake. T'as effectivement du rocket jump. On rappelle hein, le principe du rocket jump, c'est que si tu fais un saut et que tu tires une roquette grosso merdo à peu près à tes pieds, c'est pas tout à fait exact, le souffle de l'explosion de la roquette va avoir tendance à te projeter encore plus haut. Principe qu'on retrouvera dans énormément de Quake-like, hein, puisqu'à partir de la fin des années 90, c'était plus des Doom-like, c'était des Quake-like.
Et de films d'action à la con Hong Kongais.
Quoi ?
Bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir, Mecton.
La première intervention était extraordinaire.
Wow. D'accord. Et vous à dire à propos de Bruce Lee dans Doom ?
C'est ça. Mais voilà, mais je dirais que en termes de philosophie et de design, Quake c'est vraiment plus rapide, plus moins. Encore une fois, t'as moins ce principe de dans Doom à partir du 3 ou 4e niveau, faut systématiquement trouver 3 clés. C'est vraiment. T'as finalement le côté, on disait Donjons et Dragons, Dungeon Crawler, qui est resté dans Doom, même s'il y a beaucoup d'action. Ça reste quand même un jeu dans lequel t'as une grosse part d'exploration et d'expérimentation dans les décors, alors que Quake est beaucoup plus direct. Beaucoup, beaucoup plus direct.
De mémoire, l'ambiance n'est pas du tout la même non plus.
Ça s'en rapproche, il y a deux, trois bricoles. Tu peux... T'as toujours, on l'avait dit, hein, t'as toujours des pentacles, des démons, et des trucs comme ça. Maintenant, oui, t'as toujours ce mélange un peu bizarre, c'est id Software, quoi. T'as des soldats qui sont des humains, puis t'as des soldats qui sont des zombies, puis t'as des monstres qui ressemblent pas à grand-chose, puis t'as des extraterrestres, puis t'as des machins qui sont...
Oui, ça pourrait être une couverture d'album de métal, quoi, ça passe.
Exactement là-dedans. Bref, si on avance un tout petit peu plus dans le temps, un autre jeu qui a été un sacré tournant et qui, je pense, a marqué véritablement un tournant, c'est Half-Life. Puisque là, t'as déjà beaucoup plus de narration, beaucoup plus de script, t'as de la narration environnementale, et puis surtout, Half-Life te pose le ton dès l'intro du jeu, puisque t'es dans un wagon, tu ne peux rien faire, t'as pas d'armes, t'as même pas encore ta combinaison, donc t'as pas ton indicateur de vie en bas à droite, quoi.
Ouais, t'as le générique qui défile sur l'intro.
T'as le générique qui défile comme dans un film, donc on te pose bien le fait de dire que ça va être plus de narration. Half-Life a aussi beaucoup plus de script. C'est un FPS très scripté, ce qui était très peu le cas de Quake.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui fait sa révolution à l'époque, en 98.
Exactement. C'est tout d'un coup, on peut raconter une histoire à la première personne, on n'est pas obligé de faire juste un truc bourrin, et surtout, t'as une continuité, ce qui n'est pas du tout le cas de Quake, alors qui est un peu le cas de Quake 2, qui est pas le cas de Quake. Quake, c'est des niveaux qui sont disjoints, hein, finalement, c'est exactement comme dans Doom, quoi. T'es E1-M1, E1-M2, et ainsi de suite, quoi. Y a pas vraiment de fil conducteur, t'as un thème général dans un épisode, mais les niveaux, ce sont juste des cartes qui sont construites totalement indépendamment les unes des autres, et qui sont là pour, finalement, te montrer un design particulier ou une idée particulière dans lequel on va aller au bout. De ce point de vue-là, ça ressemble un peu à Mario 64, quoi, finalement. C'est un peu bizarre à dire, mais...
Maintenant, si, j'imagine le Doomguy sauter comme dans Mario, enfin, c'est le saut.
C'est à peu près ça. Ouais, mais tu vois, Mario 64, t'as un niveau, une idée. Une idée, un design, un truc, et puis on fait tourner le plus possible, t'as autant d'étoiles autour. Quake, c'est ça, hein, finalement, t'as un niveau, une idée, donc c'est un décor, et puis tu vas tourner autour d'un point central, et puis tu vas au fur et à mesure monter pour atteindre la fin du niveau. Half-Life, c'est pas du tout ça, t'as vraiment chaque niveau un début, une fin, et puis la fin du niveau correspond au début du niveau suivant.
Ouais, Half-Life, c'est vraiment ce que va donner le... Je pense que le FPS AAA et le TPS AAA, notamment de la génération 360.
On est dans les précurseurs.
Oui, t'as un grand niveau et t'as des zones de chargement et parfois t'as un boss sur le chemin.
Oui, t'as un découpage en chapitres. D'ailleurs, je pensais à un truc avant qu'on passe au suivant, mais comment tu cales GoldenEye dans cette histoire?
Alors, c'est un cas un peu particulier.
Il y a un design un peu limbiratique à la Doom de ce que je connais du jeu, mais on est plus sur un jeu beaucoup plus posé en termes de mécanique, voire d'infiltration.
Alors, je suis d'accord, GoldenEye, c'est un peu particulier. Pour moi, c'est aussi un tournant, mais alors il me semble que GoldenEye est sorti un tout petit peu avant Half-Life, je pourrais dire des bêtises.
C'est la même année,
quelques
priori,
mois, ou la même année peut-être. Mais il y en a un qui est un prédécesseur de l'autre malgré tout. Mais,
ouais, ils ont été développés en même temps, quoi.
C'est marrant d'ailleurs parce que du coup, il y a des idées qui se retrouvent. Tu vois, GoldenEye est quand même dans un FPS un petit peu plus scripté. Le fait d'avoir rajouté des objectifs, pour moi, c'est surtout ça le gros changement. C'est que finalement, il ne s'agit pas juste d'arriver au bout du niveau. Ce qui était le cas de Quake, hein, ce qui est le cas de Doom, c'est finalement le seul objectif, c'est d'arriver au bout du niveau. Le reste, on s'en fout. Dans Half-Life...
Alors, GoldenEye, c'est août 97.
Oui, donc c'est...
A priori, avant Half-Life.
Une bonne année avant Half-Life, je dirais. Ça doit être 98, Half-Life. Septembre 98, si je dis pas de bêtises. C'est pas la première rétrospective FPS qu'on fait sur le dojo, on en a fait quelques-unes par écrit, nous.
C'est novembre 98 pour Half-Life, donc il y a plus d'un an entre les deux.
Voilà, donc il y a peut-être eu de l'inspiration de l'un sur l'autre, on ne sait pas. Hein. Mais bon, il y a forcément des petites choses qui ont transpiré de l'un à l'autre. Pour moi, ce qui est intéressant dans GoldenEye, c'est ça. T'as toujours les niveaux disjoints. Même si t'as une espèce de structure par épisode malgré tout. C'est-à-dire que finalement, quand tu regardes Severnaya et Bunker, ben c'est Severnaya et Bunker, quoi. Les deux niveaux sont liés. Mais c'est quand même deux cartes complètement différentes et disjointes. pour moi, la différence, c'est surtout que finalement, c'est Doom, mais où il y a des objectifs à accomplir. Et tu restes sur un système assez similaire dans lequel, effectivement, c'est un peu labyrinthique, t'as des mécanismes, t'as des portes, t'as des clés. Alors, t'as pas des monstres, t'as des mecs, mais enfin, bon, ça change pas grand-chose.
Des Russes.
Des Russes, essentiellement, oui, c'est vrai que globalement, putain, tu descends du Ruskov. Alors, donc, je le placerais. C'est finalement une. Tu pourrais presque considérer que c'est une espèce d'hybride entre un design comme Doom, même s'il est en 3D, en vrai 3D, et un Half-Life qui est vraiment une continuité. Je pense que ce qui différencie surtout Half-Life, c'est ça, c'est une continuité des scripts et de la narration.
Half-Life, ce qui m'avait bluffé à l'époque, c'est le comportement des ennemis. Ils sont vraiment loin d'être cons, quoi. Ils sont pas là pour faire des tourelles qui te tirent dessus sans bouger ou te foncer dessus sans cervelle. Tu as l'impression qu'ils font des petites stratégies pour te coincer, quoi.
Ouais, ils essaient de s'adapter. En fait, ça se voit surtout quand tu rencontres les militaires.
Oui, effectivement, parce que les monstres, les extraterrestres là de la planète Xen, je sais plus comment, si c'est Xen, ils sont pas très très malins. Par contre, les militaires le sont un peu plus. Mais encore une fois, on est sorti de des ennemis qui sont juste des stéréotypes, c'est-à-dire qui ont un comportement simple et identifiable par le joueur. Et qui permet d'aller avoir une réaction adaptée, là, c'était quand même dans un truc un peu plus compliqué, un peu plus intéressant. Mais du coup, il y a beaucoup moins d'ennemis dans Half-Life. C'est rare que t'aies plus de 3-4 ennemis en même temps à combattre, à part certains endroits.
Et de mémoire, il n'y a pas de point de spawn où les ennemis viendraient à l'infini.
Et bien justement, ça nous amène à la suite, puisque l'évolution logique de ça, ça a été plus ou moins Medal of Honor. Alors, je parle de Medal of Honor débarquement allié. Ou Call of Duty débarquement allié, je me souviens plus, enfin Medal of Honor des Call of Duty, la toute fin des années 90, début des années 2000, c'était la grande mode du FPS de la Seconde Guerre mondiale.
Post-Soldat Ryan,
évidemment. Et là, ça va rajouter plein de trucs, notamment la vie qui se régénère. C'est-à-dire, jusqu'à présent, Half-Life, fallait quand même regagner de la vie de temps en temps, GoldenEye pareil, Duke Nukem, Quake, tout ça, c'était des jeux dans lesquels t'avais une quantité de vie limitée. Là, t'as même plus de points de vie affichés à l'écran. C'est vraiment, tu commences à voir rouge quand ça va pas bien, tu te planques 30 secondes et ça va mieux, quoi. Donc la vie qui
c'est
se régénère...
C'est les progrès de la médecine.
C'est ça, c'est des énormes progrès de la médecine. Voilà, t'as pas mal d'ennemis qui spawnent à l'infini, ça c'est un des points de design des premiers Call of Duty, où effectivement, tant que t'avais pas franchi une ligne invisible, en gros, sur la carte, t'avais des ennemis qui t'avançaient, enfin, qui spawnaient en permanence devant toi, donc fallait vraiment aller pousser, mais pas pousser au sens... C'est pas du push-forward design, on en parlera un petit peu après. C'est vraiment juste, bon, bah voilà, une fois que t'as franchi le trigger à tel endroit de la carte, les ennemis vont spawner un peu plus loin, et puis c'est tout, quoi. T'avais rarement... tu peux pas vider la carte des ennemis, contrairement à un Doom ou un Quake, où tu peux vraiment vider la carte, éliminer tous les ennemis, puis circuler dedans, tant que t'es pas sorti. Là, l'objectif, c'est vraiment que tu avances, on te prend par la main, et puis c'est tout. Tu retrouves les systèmes d'objectifs dont on a parlé justement avec GoldenEye, c'est-à-dire de temps en temps tu dois aller faire sauter un camion, récupérer machin, ouvrir telle porte, faire tel truc, mais généralement c'est pas, contrairement à GoldenEye qui te donne tous les objectifs au début et c'est à toi de te démerder pour comprendre comment les faire, dans quel ordre les faire, et finalement comment réaliser l'action, là généralement c'est on te donne le prochain objectif, disons vite va aller démarrer le tank. Une fois que t'as démarré le tank, on te dit vite, va à l'aéroport.
Le but, c'est que t'aies un rythme et un script qui fait que tu vas continuer à avancer et que tu. Et t'es une mission. Enfin, l'inspiration de ce genre de jeu, c'est les films de guerre hollywoodiens, notamment Il faut sauver le soldat Ryan pour le premier Medal of Honor. Vraiment, l'idée, c'est que t'aies un truc qui vient en Hélène et qui t'oblige à aller justement à continuer la mission et pas à. Généralement, c'est beaucoup plus linéaire aussi.
Oui, c'est très, très linéaire. Ça a plus grand chose à voir en termes de design, même avec Half-Life, hein, qui finalement, Half-Life n'était pas si linéaire que ça. T'as entre guillemets un chemin prédéterminé, mais t'as souvent plusieurs façons de passer à un endroit. Là, c'est plus du tout le cas. Là, je veux dire, c'est vraiment, c'est un couloir. À quelques exceptions près, on va dire, mais c'est généralement un couloir. T'as aussi, alors là, c'est plutôt, j'avais plutôt noté Halo, moi, pour ça, où on va te limiter en nombre d'armes en plus de la quantité de munitions. Alors ça, c'est un truc assez nouveau à cette époque-là. C'est un perso que j'ai jamais compris. Enfin, que j'ai jamais compris. Je comprends sur le principe, mais ça me fait toujours un peu chier. Dans Doom, tu pouvais te trimballer. Enfin, t'étais une putain d'armurerie sur pattes, quoi. Quoique, c'est pareil. L'objectif, c'était que tu puisses te servir de toutes tes armes parce que, encore une fois, combattre certains ennemis, c'était plus efficace d'avoir certains types d'armes. Donc c'était toujours intéressant d'avoir plusieurs armes sur toi pour pouvoir changer. Mais, c'est assez pénible dans ces FPS-là. Je pense à Call of Duty, je pense à Halo, où effectivement, bah, tu ramasses l'arme d'un ennemi, tu es obligé de lâcher la tienne, quoi.
C'est ça, c'est arme principale, arme secondaire, couteau peut-être.
Éventuellement grenade en plus.
Ouais,
un accessoire et puis bisous, quoi.
Je suis en train de me poser la question, Unreal Tournament, c'était une arme unique?
Ah non, Unreal Tournament, c'est...
Non, tu peux tout porter, je crois.
Tu peux tout porter, ok. Ouais.
Ah oui, j'ai
Unreal,
pas cité Unreal.
C'est un Quake-like, hein.
C'est un Quake-like, hein,
clairement. Ah, complètement, complètement.
On est vraiment complètement dans la philosophie de Quake. Donc voilà, donc... L'idée derrière, maintenant qu'on a brossé ce tableau-là, donc le FPS, ça continue à évoluer. Alors évidemment, c'est pas une évolution, c'est pas des grands sauts, c'est des évolutions linéaires. Il y a des jeux qui sont des hybrides entre les deux, on a parlé de GoldenEye. Et puis depuis Medal of Honor et Call of Duty, il y a d'autres trucs qui se font. Hein. Je pense on avait discuté un peu de FIR à la pause, qui pareil a des principes de design un tout petit peu différents de tous ces trucs-là. Mais voilà, on va dire les grandes tendances et les grandes évolutions, c'est ça. Dans les grandes lignes. Mais derrière le boomer shooter, donc l'idée c'est en fait, en grosso modo, c'est de revenir plus ou moins à la première étape, quoi. De revenir à Doom, de revenir à Quake, donc de revenir sur de la direction artistique très métal, très extraterrestre, démon, truc un peu surréaliste, enfin voilà, très peu d'humain, quoi. Il faut du zombie, il faut du comment dire, des ennemis un peu délirants, faut des choses comme ça. C'est
très
de revenir
pulp, en fait, terme d'esthétique. Très pulp.
C'est ça, très pulp, c'était un excellent mot. Revenir à du combat en arène aussi, c'est-à-dire de revenir à des ennemis très simples, avec des stéréotypes de comportement très très simples, mais très facilement identifiables.
C'est un personnage qui est aussi assez nerveux, qui peut bouger facilement, hein, quand tu regardes les héros de Medal of Honor, de Call of Duty, oui, des personnages qui sont assez lents. C'est aussi des jeux qui sont beaucoup plus posés. Enfin, on peut pas le multi de Call of Duty quand tu regardes les PGM, mais quand tu dis Doom, une partie de Doom, une partie de Call of, Doom, ça va nettement plus vite.
Et même Quake, hein. Quake, c'est vraiment... C'est ce qu'on a appelé pendant un temps du fast FPS, c'est-à-dire que l'idée, c'était les déplacements sont rapides, tout est rapide, quoi. L'objectif, c'est que ça aille vite, c'est que ce soit finalement... très orienté arcade, quoi. On n'est pas, de toute façon, t'es pas un être humain et t'es pas dans un décor standard, donc on y va, quoi. On me dit oui, Call of Duty c'est très très statique. Effectivement, c'est assez statique. En tout cas, les campagnes. Hein. Attention, effectivement, les parties multijoueurs ça remue quand même un peu plus, mais c'est pareil. La vitesse à laquelle tu cours dans un Quake, la vitesse à laquelle tu cours dans un Call of Duty, ça n'a pas grand chose à voir. Bref, il y a souvent donc des combats en arène. Alors ça, c'est très inspiré, beaucoup plus inspiré de Doom que de Quake. Et t'as très souvent, t'as des couloirs jusqu'à ce que t'arrives dans une espèce de grande pièce, une grande salle dans laquelle tu vas avoir des bumpers pour sauter, des échelles...
Des caisses de munitions.
Des caisses de munitions, de la vie, de l'armure, donc là tu sais que ça va péter, à un moment tu vas arriver, il va y avoir plein d'ennemis qui apparaissent, et donc là l'idée c'est vraiment, de nouveau, crowd control.
Et 2-3 barils qui traînent pour le fun.
C'est ça, 2-3 barils qui traînent. T'as ce que Doom et Doom Eternal appelleront le push-forward gameplay, c'est-à-dire l'idée c'est d'aller encourager le joueur à aller casser des bouches. Donc dans Doom et dans Doom Eternal, ça se fait avec ce système dans lequel quand un ennemi clignote parce que tu lui as fait suffisamment de dégâts, tu peux l'achever, tu vas regagner des munitions et de la vie. Tu peux lui mettre le feu et là, à ce moment-là tu vas regagner de l'armure. Donc l'idée c'est toujours d'aller encourager le joueur à être agressif, finalement. Ce qui n'est pas le cas du tout, c'est vraiment à l'inverse d'un Call of Duty, on va plus te demander d'aller te planquer, d'aller abattre 3-4 ennemis, d'avancer, et ainsi de suite, quoi. C'est vraiment une philosophie complètement différente. Ce que disait... Ah merde, je sais plus si c'est Romero ou Karma qui disait ça, le problème, c'est pas toi qui es enfermé avec les démons, c'est les démons qui sont enfermés avec toi, quoi. C'est... On est exactement à ça. Et donc toute l'idée derrière ces boomer shooters, c'est ça, c'est le retour aux sources. Tout d'un coup, t'as de nouveau une barre de vie, t'as de nouveau une barre d'armure, tu peux de nouveau porter 6 armes différentes, t'as de nouveau des ennemis très cons, t'as de nouveau du combat en arène, mais on va rajouter ça, on va rajouter le push-forward, on va rajouter parfois de la gestion un petit peu plus subtile de certains trucs, tu vas avoir des FPS où tu vas avoir des pouvoirs, par exemple, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir des guns, bah, t'auras peut-être des trucs qui te permettront d'être invincible pendant quelques secondes. Alors Doom l'avait, Quake l'avait, mais à des endroits bien précis. Là, c'est des trucs que tu vas pouvoir déclencher comme des espèces de magie. Donc tu vas avoir des petites choses comme ça qui vont être intéressantes. Daniel Singh de Fear is You, c'est un peu ça.
Non, mais c'est la phrase d'accroche du Eternal.
Ben, c'est ça, hein. Mais en vrai, quand tu regardes la quantité de dégâts que tu fais dans un Doom Eternal, c'est vraiment... Il y a une espèce de power fantasy derrière aussi, on va être clair.
Et d'ailleurs le boomer shooter, je pense qu'on en parlera quand on verra les jeux après, mais c'est vrai que si t'as Doom, avec sa réincarnation 2016 et ses suites, qui est un peu la version triple A, en fait, c'est un genre qui est surtout fait par des indés.
Oui, effectivement, je trouve ça d'ailleurs très curieux, bon, on en reparlera probablement un petit peu après, que finalement, il n'y ait pas d'autres gens qui ont brillé là-dedans, parce que c'est pas forcément un design très... simple, faire j'ai un très bon contre-exemple d'un entre guillemets d'un boomer shooter qui marche pas tellement bien, mais on en reparlera un petit peu après. Mais c'est vrai que finalement, ça a pas l'air si compliqué que ça à faire. Je veux dire, par rapport à la quantité de script ou d'IA qu'il faut pour faire tourner correctement Half-Life, la quantité de narration qu'il faut avoir pour qu'un Call of Duty se tienne droit tout seul. Enfin, tout ça, ça me paraît très compliqué par rapport à faire des archétypes d'ennemis, tu les colles dans une arène et puis voilà quoi.
Oui, puis surtout, c'est des jeux, les jeux concis, c'est des jeux cinématiques, donc il y a un focus quand même sur l'esthétique qui est important, enfin l'esthétique,
la narration,
la qualité visuelle et compagnie. Alors que c'est vrai qu'un boomer shooter, dans le jeu que j'ai testé, Prodeus notamment, peut te permettre de faire un peu rétro parce que ça colle à l'esthétique en fait que tu veux donner au jeu. Et en plus, c'est un genre rétro, ça peut avoir l'air un peu rétro aussi en termes de look.
C'est ça. Et d'ailleurs, on verra à travers les exemples qu'il y a même ça, il y a des gens qui poussent ça très 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 loin, puisqu'ils vont même jusqu'à utiliser des vieux moteurs de jeu. Ça n'est pas évidemment une obligation, mais c'est quand même assez rigolo. Bref, et bah écoutez, je vous propose de faire la deuxième pause musicale maintenant. Comme ça, on est bien. On a bien 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 débroussaillé le sujet. Et donc, on va écouter un autre morceau de Andrew Ulshot, mais qui n'est pas pour Wrath Aeon of Ruin, mais qui est pour Prodeus. On parlera forcément parce que c'est un très très bon jeu. Le morceau s'appelle Hotspot et ça dure 3 minutes 17 et on se retrouve tout de suite après. Nous voilà de retour. Et cette fois-ci, ça n'a pas merdé.
Ah, c'est cool, on a le son.
On a le son, on a l'image. Ah non, on n'a pas l'image. Merde, on n'a pas l'image.
Ah mince, tant pis.
Bref, pour finir cette émission, on voulait revenir rapidement et peut-être donner quelques conseils. Hein, si le sujet vous a intéressé, que vous dites « Ouais, moi aussi, j'ai envie d'aller faire du Doom-like ou du Quake-like, un peu bourrin, rigolo, où on se prend pas trop la tête. » Enfin, on se prend pas trop la tête. Où on défouraille des trucs sans réfléchir, et puis voilà, on a quand même quelques exemples de jeux qui marchent plutôt bien, et quelques exemples de jeux qui marchent un peu moins bien. Voilà, on va pas forcément détailler ça de manière extrême, hein. On a souvent des articles sur le dojo vers lesquels on vous renverra éventuellement. Parfois même on a des petits extraits de gameplay qu'on a fait en direct, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou notre chaîne Peertube, donc voilà, on vous y renverra. Je voudrais commencer par un jeu que vous... Alors, je suis peut-être le seul à l'avoir fait, je suis pas sûr. Iron Fury
Oui, pas fait.
Pas fait, ok.
Pas fait non plus.
Bien vendu, mais pas encore fait.
Bien vendu, mais pas encore fait, donc c'est bien. Donc, Iron Fury, c'est assez rigolo parce que c'est des gens qui ont reconstruit un jeu sur le moteur de Duke Nukem 3D. Donc, un moteur qui a 30 ans. Voilà. Avec des grosses améliorations. Notamment le fait de gérer du voxel, donc je rappelle, le voxel c'est le volumétrique pixel, donc c'est le fait de construire des... c'est pas vraiment de la 3D, c'est utiliser des gros cubes pour construire des objets.
Tout est Lego,
c'est du Lego, donc ça fait des trucs assez, assez marrants, et comme il n'y a plus les limitations du Pentium 133 de papy, hein, les mecs ont pu construire des niveaux gigantesques. mais alors gigantesques. C'est-à-dire que les trucs se tiennent des niveaux absolument délirants en termes de taille. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça reste quand même assez facile à parcourir. T'as pas trop de prise de tête, un peu comme dans un Duke Nukem, le jeu t'amène naturellement là où tu as besoin d'aller. C'est bourré d'hommages à la con. Alors, au film des années 80 et 90, forcément, il y a tout un tas de citations à la con, de façon Duke Nukem. Hein. Duke Nukem, c'était le fameux come get some. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que donc Duke Nukem citait beaucoup Evil Dead 3,
Carpenter,
Deadlive, Invasion Los Angeles, et ainsi de suite. Et Iron Fury cite énormément plutôt Matrix, plutôt. Tu vois, il y a quand même eu un petit shift d'une petite dizaine d'années sur les références, mais ça reste toujours assez drôle et assez bien vu. T'as plein d'armes, bon, c'est un grand classique, hein, t'as de la mitraillette, du fusil à pompe, du lance-roquette, tout ce que tu veux. Il y a une arme un petit peu originale, alors à chaque fois on essaiera peut-être de mettre l'accent sur les armes un peu originales, les trucs un peu rigolos. Là il y a une arme qui est la bombe bowling.
En fait, non, parce que j'allais te demander si c'était cantonné dans l'arme crédible ou s'ils avaient fait craquer un peu le casque, tu vois.
Non, de toute façon, ça sert à rien, t'es dans un truc surréaliste, donc autant y aller à fond, quoi. Alors là, tu combats des robots et des cultistes, parce que bon, pourquoi pas. Donc la bombe bowling, en fait, c'est assez rigolo, donc c'est une espèce de grenade qui a deux modes, donc elle a le mode grenade standard, bah, tu la lances et puis elle explose au bout d'un certain temps, et t'as le mode bowling. En fait, l'héroïne du jeu, qui s'appelle je sais plus comment, bref, c'est pas très grave, la lance comme une boule de pétanque, mais vraiment comme une boule de pétanque. Et en fait, elle roule et elle va foncer vers les ennemis. Donc, c'est quand même très très drôle. Donc tu la lances façon boule de pétanque et en fait, elle fait vouvou, puis elle fait. Vraiment, elle peut même faire le tour des ennemis, aller les poursuivre dans les coins de couloirs, enfin, c'est un peu n'importe quoi. C'est assez drôle à utiliser. Et c'est relativement efficace.
J'ai des images à la Benny Hill en tête, là.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc c'est hyper efficace. C'est pas trop difficile. T'as pas de niveau hyper labyrinthique, très très bordélique, où tu t'y retrouves pas. C'est vraiment toujours... T'as des niveaux qui bouclent d'une manière un peu intelligente. C'est-à-dire que quand on t'amène à un endroit, en fait, t'as toujours un truc pour te ramener à là où tu dois aller. Voilà, c'est vraiment... ça marche assez bien. Le niveau de difficulté est pas trop élevé. Donc ça reste raisonnable. En tout cas, sur les premiers niveaux, sur les derniers niveaux, c'est déjà un peu plus difficile. Mais voilà, ça se fait assez bien. Si vous y jouez sur PC, le jeu fait 50 mégas, littéralement. C'est vraiment... c'est un jeu du Duke Nukem 3D, quoi. Donc voilà, c'est assez fandard. Et je crois qu'il y a un article complet sur le dojo, si vous voulez un petit résumé. Mais voilà, ça marche plutôt pas mal, dans un style un peu particulier. Je vais vous passer la main pour Prodeus, parce que c'est celui que je vous ai encouragé à faire.
Oh, ouais. Ouais. C'était chouette. Alors, tu vois, je sortais de longs jeux à scénario, et celui-là, je disais, ok, le truc va droit au but, et tu me l'as résumé d'une manière qui m'a beaucoup plu, c'est, les gens sont beaucoup trop solides, il faut les rendre liquides.
Ça marche bien, possible. Hein.
Mais c'est vrai que la solidité des gens m'a étonné, moi, dans le... C'est insupportable.
Ah, il y en a qui veulent pas mourir, hein. Enfin, lance-roquette, c'est fini, mais... Ils veulent pas mourir, hein.
Voilà, donc là, on est plus dans du... J'aurais dit plus dans du Quake, sur le principe.
Alors, moi, c'est marrant,
parce que... c'est direct à Doom 2016.
Ah.
T'es dans l'espace, il y a des démons, et...
C'est vrai.
Mais, pour le coup, c'est plus... Il y a un peu de recherche... C'est très linéaire quand même. T'as quand même quelques secrets, ça c'était assez chouette.
Oui.
Mais vraiment, je me suis senti comme dans Doom 2016, mais sauf que j'ai pas de glory kill.
C'est ça, oui, par contre, il y a pas de système de glory kill, c'est assez linéaire. T'as beaucoup d'arènes dans Prodeus.
Oui, bah même à la fin, ça devenait un peu excessif. Les derniers niveaux m'ont un peu gavé. Parce que t'enchaînes beaucoup les combats contre des ennemis qui te font assez mal. Et finalement, qui... En fait, t'as des variantes bleues, on va dire, entre guillemets, des ennemis de base. C'est un peu répétitif, mais je pense que c'est pour des questions d'économie de moyens. c'est plus simple de reskinner un mec que d'en faire un nouveau. Et du coup, c'est vrai que sur la... je pense les deux premiers tiers du jeu, j'étais vraiment enthousiaste. Je me suis bien amusé. C'est vrai que la fin, ça devenait un peu trop bourrin à mon goût.
C'est vrai que la fin est un peu difficile, je dirais. Ouais. Puis en plus, effectivement, les niveaux deviennent plus longs, en fait. On l'a pas dit, mais c'est vrai que dans Iron Fury, même si les niveaux sont géants, c'est rare d'y passer plus de 20 minutes. Prodeus, c'est pareil, hein, les niveaux font entre un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum.
Ouais, je dirais que les derniers, ça dure peut-être 30 minutes si tu meurs un peu beaucoup, quoi.
Ouais, voilà, mais c'est du coup pas aussi agréable, entre guillemets, sur les derniers niveaux, surtout qu'ils ont un peu tendance à être bourrins, effectivement, très grands, pas toujours faciles à naviguer.
On a les petits niveaux agilité.
Ouais, ça c'était
oui,
cool.
C'est rigolo.
En gros, t'as une arme et le but c'est de faire un parcours un peu. C'est un petit parcours, le but c'est de le finir vite pour obtenir une récompense et c'est assez chouette. Ça t'oblige à utiliser un peu les capacités spéciales de l'arme vu que chaque arme a deux modes de tir selon la gâchette de la souris. Et c'était assez cool ça par contre d'avoir un peu ces petites subtilités. Alors je vais pas forcément tout exploiter, mais c'est très fun.
Ce qui est rigolo d'ailleurs, je trouve, dans Prodeus, c'est que t'as une carte un peu à la Super Mario Bros. 3. Ça, finalement, tu t'avances de niveau en niveau de manière. C'est pas tout
ah,
à fait
doux. L'overworld, ok.
T'as une espèce d'overworld dans lequel effectivement tu vas pouvoir aller faire un. C'est indiqué, hein, tu vas pouvoir aller faire un petit niveau bonus agilité qui va te donner un petit truc. On te dit, faut finir le niveau en moins de 1 minute 20, et puis la première fois que tu le fais, tu mets 3 minutes, tu te dis, bon, il y a une merde, et puis après, t'as compris que, en fait, ah oui, tu peux passer par là, tu peux faire ça, c'est vrai que c'est assez chouette, ça varie peut-être un peu mieux que de mettre des séquences de plateforme.
Oui, ça reviendra. Et le filtre graphique, très, très intéressant.
Ouais.
Oui, t'as un filtre CRT. Enfin, très, très pixelisé. Alors, c'est du jeu qui fait vraiment du gros pixel qui tâche, là, en l'occurrence.
Ah oui, enfin c'est du. Les ennemis, c'est des billboards. Même si a priori. Alors, j'ai pas fouillé toutes les options. Je sais que sur la version PC, tu peux switcher vers des modèles 3D classiques.
Ah, sur la version Switch aussi. Mais en fait.
Tu peux aussi, ok.
Ça rend moins bien, je trouve. C'est assez bizarre à
dire.
Ah bah,
on est d'accord. Tu casses l'aspect complètement rétro. Parce que j'imagine que l'architecture des niveaux reste très cubique, quoi.
C'est ça. De toute façon, t'as des niveaux qui sont, de manière générale, très cubiques, très, très linéaires. Et voilà. Et comme ton arme, elle, est en 2D, puisque ton arme est vraiment littéralement un sprite 2D, donc je trouve que ça crée une espèce de dissonance qui est pas très agréable. Mais c'est pareil, alors c'est le genre de... Dans les options graphiques, t'as des trucs assez ouf. Parce que tu peux vraiment le pousser en mode jeu qui soit en 640x480 avec des gros pixels et puis 16 couleurs. Tu peux le faire. C'est pas forcément le plus agréable. Ou tu peux vraiment aller le pousser en mode je veux que ce soit ultra lisse... Je veux pas de... Alors, je crois que sur Switch, on peut pas le pousser jusqu'au bout, là. Il me semble que sur PC, on peut le pousser plus loin, en mode, je veux même plus de filtre trilinéaire. Je veux vraiment que ce soit hyper clean. Après, pourquoi pas, hein. Si c'est ton trip, pourquoi pas. Moi, je trouve que tu perds un peu... Voilà, tu perds un petit peu de cet aspect rigolo.
Très, très rétro, ouais.
Très rétro. Et c'est vrai qu'on parlait de direction artistique, mais c'est vrai que dès que tu pousses le jeu tu mets le curseur vers plus de réalisme, c'est pas moins fun, le jeu est toujours aussi bien designé, mais ça fait bizarre.
Ouais.
Ça
fait moins Doom 2.
C'est ça, ça fait moins Doom, ça fait moins... Bon, moi je trouve ça un peu curieux. Voilà. Et en termes de design, sinon, ça reprend à peu près tous les poncifs du genre. Hein. C'est vrai qu'en termes d'armes, t'as un fusil à plasma, t'as une mitraillette, t'as un fusil à pompe...
Voilà, t'as un truc un peu rigolo parce qu'il te file des armes. La dernière arme, c'est une espèce d'arme démoniaque. Alors, c'est un fusil électrique et t'as une autre variante qui balance des boules de feu. C'est pas ouf d'ailleurs comme arme. Mais voilà, il y avait un peu cette originalité en tout cas en termes sur la dernière arme qui est un peu plus fantaisiste.
Voilà, parce que sinon, c'est vrai que ça reste du assez classique.
Bah, t'as fusil à fond 1, fusil à fond 2. Hein.
Ta jauge de vie qui est représentée par le portrait du personnage au milieu, ça je suis fan.
Ouais, le truc annonce la couleur, quoi, on va être clair.
Oui, d'ailleurs, il y a un petit côté HUD à la Metroid Prime, je trouve. Il y a une espèce de casque qui apparaît légèrement.
C'est vrai.
Et du coup, qui fait des reflets, mais des reflets pixelisés. Donc c'est un côté, voilà, les mecs sont allés jusqu'au bout de l'idée aussi. On va enchaîner avec un exemple où ça marche moins bien, parce que jusqu'à présent, on a plutôt cité deux bons jeux. Alors dans des styles très différents. Hein. Mais là, il y en a un troisième où... alors c'est Wrath Aeon of Ruin, hein, donc on a écouté une petite partie de la bande originale en première partie d'émission. Moi, j'ai écrit un article dessus il y a peu de temps, très détaillé. Je vous renvoie dessus si vous voulez avoir...
Ouais, il était chouette à lire.
Et le jeu est pas mauvais du tout. Alors, Wrath Aeon of Ruin a une petite particularité, c'est qu'en fait, il a été construit sur le moteur de Quake original, donc un peu comme Iron Fury. C'est un moteur qui a pas tout à fait 30 ans, qui a plus aux alentours de 20-25 ans. Mais les mecs ont énormément... ce sont des gens qui ont énormément modé dessus. Donc en fait, c'est des gens qui modaient du Quake à l'origine, qui ont décidé de faire un jeu Quake sur le moteur de Quake. Donc c'est assez chouette, il y a vraiment plein de bonnes idées dedans. C'est pareil, tu te retrouves de nouveau avec du médiéval gothique fantastique bizarre. Donc ça fait un mélange un peu curieux. Là, t'as surtout beaucoup de gothique d'ailleurs, en l'occurrence, mais bref, donc tu visites des ruines, des marécages, des forêts hantées, enfin voilà, c'est vraiment...
Berserk.
C'est, vous voyez, un peu... Et ce qui est assez rigolo, c'est que t'as des niveaux qui sont vraiment très 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 grands, mais vraiment très 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 grands. Ce qui pour Quake est assez impressionnant, c'est-à-dire que t'as un niveau où t'as un arbre géant qui est au milieu, et en fait le truc du niveau c'est de monter, donc tu vas passer à travers là plusieurs fois, à plusieurs niveaux du jeu, tu vas empiler les niveaux pour aller jusqu'en haut de l'arbre pour trouver la sortie, quoi. Mais le problème de ce jeu, c'est que la difficulté est hyper mal dosée, c'est-à-dire que c'est vraiment fait par des gens qui sont des spécialistes de Quake, pour des gens qui sont des spécialistes de Quake. Je connais bien Quake, j'aime bien Quake. J'ai même fini les Quake 1 et Quake 2 sur N64, donc je suis quand même motivé, hein, tu vois, pour faire du Quake, parce que c'est quand même dur, on va se le dire, à la manette Quake, c'est quand même vachement raide, mais là, je l'ai trouvé trop difficile. C'est-à-dire que t'as vraiment des niveaux trop longs, avec des ennemis super punitifs, on te file très peu de munitions, et ça, c'est le plus rageant là-dedans, c'est que finalement, dans Iron Fury, dans Prodeus, t'as jamais vraiment de problème de munitions, c'est-à-dire qu'au pire des cas, si tu manques de cartouches, c'est peut-être que t'as fait de la merde, quoi. C'est pas normal, tu vois, comme
oui,
situation.
Ça, Prodeus, pour le coup, enfin... Non, pardon, c'est sur la vie. Enfin, tu te laisses crever, tu reprends au dernier checkpoint instantanément, et puis roule.
Voilà, mais c'est pas... normalement, ça doit pas poser de problème. Là, ça pose un vrai problème, quoi. Il y a vraiment des moments où t'es obligé de faire du quick save... de recharger, d'aller recasser les vases qui sont de nouveau là pour aller reprendre des munitions, quoi, tellement c'est la dèche.
Ouais.
Donc c'est un peu dommage. Mais du coup, t'as des petites particularités quand même intéressantes, notamment sur la partie déplacement, où la première arme du jeu, c'est une espèce d'épée, et en fait, quand tu charges l'épée, c'est le tir secondaire, ça te permet de dasher en avant. Donc en fait, c'est à la fois une arme et un mode de déplacement, c'est-à-dire que tu vas pouvoir sauter, dasher, ou au contraire dasher, sauter, enfin tu as plein de combinaisons de dash, de saut, et de, comment dire, de combinaisons de tout ça, plus le fait de courir à droite à gauche et de sauter d'une certaine manière, de bunny hopper vraiment façon Quake, c'est-à-dire faire des petits sauts.
Putain, mais c'est Céleste avec des flingues, hein.
C'est Céleste avec des flingues. Le problème, c'est que jouer à ça à la manette, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça a vraiment pas été adapté pour ça.
C'est un éclatana. Est-ce que ça a un rapport avec Daikatana, du coup ?
Je pense que ça a un rapport avec Daikatana. Mais voilà, donc c'est... Je suis admiratif, vraiment, de la technique. Il y a vraiment de très très bonnes choses. Mais derrière, le jeu est vraiment beaucoup trop difficile pour être joué sur console. J'y ai joué un petit peu sur PC, c'est déjà pas simple. Mais alors là, avec une manette, c'est ultra compliqué.
Bah, en vrai, moi, Prodigy, je l'ai fait sur PC et je serais mal vu y jouer sur Switch.
En vrai, ça passe super bien.
Ça passe super bien et t'as le gyro qui est possible.
C'est ça. Nice.
Ah oui, jusqu'à présent, on n'a pas dit, mais Iron Fury, t'as du gyro, Prodeus, t'as du gyro, Wrath Aeon of Ruin, t'as du gyro. Hein, généralement...
Puis voilà, il pousse un peu... Pour Prodeus, toujours, pour l'instant, c'est le seul auquel j'ai joué. Il pousse un peu le aim assist, l'aide au ciblage, c'est-à-dire que si tu bouges ta caméra avec ton stick droit proche d'un ennemi, ton réticule va se centrer sur là où tu veux tirer.
Oui, c'est vrai que t'as une bonne assistance à la visée, hein, c'est... Peut-être même...
Ça passe bien.
Voilà. Là, en l'occurrence, Thrust, par exemple, t'as quasiment pas d'assistance à la visée.
Donc, ouais, là, donc au stick, c'est chaud, quoi.
Donc au stick, c'est un peu chaud. Alors au stick, quand tu mets le... Comment dire, le gyro, ça va à peu près. Et encore, il y a un mode de gyro qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, il faut tourner la manette vers la gauche et vers la droite comme si c'était un volant, tu vois, pour pouvoir aller à gauche et à droite. ce qui est quand même okay. un peu là, curieux.
C'est chaud.
Ouais. Donc, c'est pas toujours ouf, quoi. Ah, donc, tu vois, là, t'as un exemple d'un truc où ça marche beaucoup moins bien. Alors, si t'es un expert de Quake, tu dois t'éclater, hein, mais si tu l'es pas, bah, c'est un peu emmerdant. Je vous laisse un petit coup sur Doom et Doom Eternal, éventuellement. Comme ça, je finirai par un dernier petit que je vous ai gardé de côté.
Je peux te laisser le 2016, Antix.
Oui.
Ah, comme c'est généreux. 2016, ouais, très fun. Moi, je suis pas un... Alors, franchement, les boomer shooters, à part Doom 2016 et Prodeus, vite fait, jouer à Quake 3 Arena quand j'étais ado. Enfin, ça remonte, hein, maintenant. Et vraiment, Doom, super proposition. J'aime beaucoup l'idée du Glory Kill, c'est dynamique, on s'éclate bien. C'est frénétique. Bon, par contre, effectivement, tu sors un peu lessivé des affrontements à la fin. Quand on me dit qu'Eternal, c'est encore plus frénétique, j'ai un peu peur. Mais c'était vraiment très fun, et ça fait partie de ce jeu qui ont le bon goût de s'arrêter quand ça commence un peu à tourner en rond, donc très bien.
C'est vrai que c'est à peu près ça.
En plus, comme il date maintenant, tu peux le trouver à pas cher en promo à n'importe quand. Donc.
Et sur toutes les plateformes aussi, hein, c'est-à-dire que
exact,
là, c'est...
comme le premier Doom, partout.
C'est ça. PC, PC, PS4, PS5, Xbox One sur Switch, la version Switch est très bien. Elle marche très 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 bien. Ce qui lui manque, c'est peut-être un mode multijoueur digne de ce nom. Il y a un mode multijoueur, mais qui est pas ouf.
Tu es même pas sur la cartouche, d'ailleurs.
Oui, il faut le télécharger, alors que tout le reste du jeu y est. Donc c'est un peu dommage. Que dire sur Doom Eternal ?
Eternal, bah, c'est la même sauce. Donc, alors, les glory kills sont encore plus graphiques, on va dire. Même si leur utilité, c'est toujours de te recharger en munitions... en vie.
En vie.
Les munitions, c'est peut-être la tronçonneuse.
C'est la tronçonneuse, oui. Et le lance-flamme, c'est l'armure.
Et lance-flamme, l'armure, c'est ça. Même chose, un couloir, arène, enfin, la formule est la même. Peut-être un peu plus de scénario, un peu plus de cinématique. Pas forcément en jeu, hein, vraiment, tu poses la manette et tu regardes un petit film. Du lore complètement optionnel, comme dans le premier. Et moi, le petit truc, on en parlait en off, qui m'a légèrement dérangé, c'est les petites phases de plateforme qu'ils ont mis par-ci, par-là. Non pas qu'elles soient pas mal fichues ou pas intéressantes, c'est juste à mon goût un petit peu trop longue et du coup elles me cassaient le délire. Quoi.
C'est vrai que t'as un peu, on parlait de Power Fantasy, mais c'est un peu ça quoi. Doom, c'est vraiment. Enfin, Doom 2016 et Doom Eternal, c'est je trouve encore plus poussé. Quand tu commences à maîtriser un peu le jeu, les ennemis ont vraiment absolument aucune chance. Vraiment aucune chance, tu les détruis littéralement. C'est vrai que le fait de faire juste des petites phases de plateforme, bah, bon, ok.
Dans le 2016, il y avait déjà des sauts, des doubles sauts, tout ça qui jouaient un peu sur la verticalité. Voilà, ça restait limité, ça jouait un petit peu sur la verticalité. Là, ce qui m'a surpris, la première grosse phase de plateforme du Eternal, ça te demande de t'accrocher de pilier en pilier.
Oui. Oui, c'est vrai que c'est un peu curieux en plus. Ça fait vraiment.
Ça me sentait limite hors sujet, quoi.
C'est vrai que ça fait limite en ce genre.
À mon goût.
Est-ce qu'il y a des modes de difficulté pour se challenger ? Oui, toujours. C'est toujours le genre de jeu où... je sais pas si vous... Moi, je l'avais fait en moyen, je crois. Enfin, il y avait genre 3 niveaux de difficulté, facile, moyen, difficile. Je l'avais fait en moyen, ça passait assez bien.
Ouais, ça passait bien. Doom, c'est les mêmes qu'à l'époque. Hein. C'est bébé, bonhomme...
To die,
Voilà, c'est ça.
I'm too young to die. Je crois que Wrath, c'est le seul jeu de la petite sélection, là où même en facile, j'en chie des bulles. Hein, donc,
ok.
Ça vous donne une idée. Alors que Iron Fury, honnêtement, je crois qu'en normal, jusqu'aux deux derniers niveaux du jeu, ça passe bien. Aux deux derniers niveaux du jeu, ça devenait un peu compliqué. Je suis repassé en facile à un moment parce que j'avais envie d'aller au bout, mais voilà, ça se passe bien. Mais voilà. Et Doom Eternal, il y a deux, trois petits trucs aussi en termes de mouvement, un peu en plus par rapport à Doom 2016. Doom 2016, t'avais pas mal de bumper, de comment dire, de...
Le double, tu parles du double saut magique avec les bottes dans le vide, c'est ça?
C'est ça, t'as le double saut, t'as un dash en plus, je crois qu'il était pas dans le 2016, si je dis pas de bêtises, et t'as surtout le crochet de boucher voilà, qui fait des trucs.
Et même chose, enfin, tout... Tu t'en parlais, tout pour te pousser à aller au contact, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est
si t'arrives pas vraiment à aller au contact, c'est le contact qui vient à toi, quoi.
Ah oui, non, mais vraiment, clairement, les ennemis... En fait, t'es plus efficace et t'as plus de chances de survie quand t'es très agressif.
sur Doom complètement. Faut toujours bouger, comme à l'époque, quoi.
C'est ça. Et c'est vrai que, même encore pire qu'à l'époque, hein, parce que je crois que c'est sur Doom 2016 où t'avais finalement relativement beaucoup de vie. C'est-à-dire que tu t'avais, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas tout à fait ça, mais genre par défaut t'avais 100 points de vie, 100 points d'armure, quoi. Et là, je crois que sur Doom Eternal, tu en as moins, t'as genre 75 points de vie par défaut et 50 points d'armure par défaut.
C'est possible. C'est
même donc pas t'es vraiment vrai. Encouragé à aller à la castagne, parce que bah, plus tu castagnes, plus tu fais de glory kill,
plus tu te régénères.
Plus tu te régénères. Et en fait, c'est une espèce de cercle vertueux, quoi. C'est-à-dire, plus tu casses des bouches, plus tu casses des bouches. Ce que j'ai trouvé aussi peut-être un poil hors sujet sur Doom Eternal par rapport à Doom 2016. Doom 2016 n'avait pas vraiment de boss.
C'était à chaque fois la présentation des gros builds, la première fois que tu les croisais. C'est ouais, ça c'est que ça. Je vivais comme des boss.
C'est ça, on te présentait un baron de l'enfer, bah, un peu comme dans le Doom original, hein, finalement. La première fois que tu croises un baron de l'enfer, il est tout seul parce que bah, faut bien que tu appréhendes un peu l'ennemi, voir comment il marche.
Et après, puis, c'est de la piétaille.
C'est ça, trois niveaux plus loin, il y en a quatre dans la même salle et tout va bien. Quoi. Là, c'est vrai que Doom Eternal, t'as des vrais boss. Et c'est pareil, je trouve que dans ce genre de jeu-là, dans lequel ce qui est intéressant, c'est d'avoir une arène et d'avoir plein d'ennemis et d'envisager l'arène et d'essayer de la comprendre, d'avoir presque une espèce de, c'est presque une espèce de puzzle, je trouve que c'est un peu hors sujet. Mmh. C'est pas mauvais pour autant, hein, mais
ah
c'est
non,
vrai
non,
que...
ça reste très 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 plaisant. Puis voilà, c'est, alors on n'a peut-être pas dit jusqu'à présent, mais Doom Eternal, c'est une quinzaine d'heures.
Oui. Avec pareil des niveaux qui font entre 20 et 30 minutes grand maximum.
C'est ça.
Décousu mais pas tant que ça. T'as des on va dire c'est encore une fois t'as des grands épisodes avec plusieurs petites cartes à l'intérieur
ouais, qui sont reliés scénaristiquement par un espèce de enfin ça passe sans problème.
Voilà. Le tout dernier jeu que je voulais aborder parce que j'ai pas encore écrit l'article mais ça va pas tarder. J'ai commencé, il me reste un niveau donc j'attends de l'avoir fini mais j'ai déjà pris plein de notes. C'est un truc qui est passé un petit peu inaperçu et c'est pour ça que ça me fait assez plaisir d'en parler, c'est Postal Brain Damaged.
Alors, par rapport avec Postal, la série
oui.
des années 90
oui, oui.
Excellent. Donc, excellent. Qui... Et là, j'expose mon mauvais goût.
Mais c'est, de toute façon, c'est... Alors, je préviens, c'est Postal. Donc effectivement, il y a de la violence, du gore et du caca, hein, on va être très clair. Non mais voilà, c'est vraiment fait pour ça. Postal, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est effectivement des jeux qui sont plus qu'irrévérencieux. Hein, c'est vraiment volontairement... très gore, très violent, débile.
Ah, très con.
Très con, où ça parle de drogue, de sexe, de...
C'est silencieux à base de trous de balles de chat.
C'est ça. Là, il y a une magnifique arbre qui, en VO, s'appelle le Pussy Blower.
Parfait.
C'est vraiment de la subtilité. Et qui, en fait, est un lance-chat combiné à un aspirateur. Donc, c'est très compliqué à expliquer.
Oh mon Dieu.
Donc, en fait, tu lances un chat... Il s'accroche au mur, et en fait, quand t'appuies sur le bouton secondaire, ça aspire, et en fait, ça fait des dégâts entre le chat et l'aspirateur, et la tête de l'aspirateur. Donc c'est comme une espèce de rayon laser, en gros, entre les deux, sauf que tu peux lâcher trois chats en même temps. Donc le chat fait des dégâts, et derrière, quand tu aspires, ça fait aussi des dégâts. C'est très... voilà. Donc on se retrouve de nouveau plutôt dans un état d'esprit, je dirais, du Duke Nukem 3D, c'est-à-dire avec des armes un peu délirantes, un côté très... très délirant, très irrévérencieux, c'est-à-dire que le tout premier niveau, c'est un suburb américain, typique, mais le suburb américain tel que pourrait le cauchemarder le Postal Dude. Donc, effectivement, tout le monde a une maison bien rangée, tout ça, tout propre, mais c'est les chiens qui t'attaquent, c'est les vieux qui t'attaquent avec leurs fusils, c'est les Karen qui t'attaquent avec leurs sacs. Ah, bisous, Mecton. Mecton qui doit nous... quitter à présent. Bref, donc voilà, Postal Brain Damaged, c'est un jeu un peu délirant dans lequel l'idée c'est d'aider le Postal Dude qui est enfermé dans ses propres rêves. Oui, voilà, c'est l'Amérique de Trump en gros, c'est à peu près ça, sauf que là c'est vraiment l'anti-Amérique de Trump. Le tout dernier niveau se passe dans une convention de furries, parce que forcément. Et où l'objectif est d'aller défoncer le plus possible de mecs déguisés en renards, quoi. C'est vraiment absolument n'importe quoi. Et je dirais que le gros intérêt de Postal Brain Damage, en dehors de l'aspect totalement hors de l'espace, hors du temps, enfin le truc est vraiment complètement délirant, c'est les armes, où là vraiment les mecs se sont complètement lâchés, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes archétypes d'armes, Donc t'as un fusil à pompe, t'as un pistolet, tout ça. Mais à chaque fois, elles ont un look complètement délirant et elles ont généralement une fonction secondaire un peu débile aussi. Voilà, t'as typiquement...
J'ai vu que même les ennemis, ça avait l'air bien stupide.
Ah, les ennemis sont stupidissimes. T'as un ennemi qui est en fait une... C'est juste une bouche avec une langue qui sort et qui est dans un gainé de cuir et qui fait des bruits... genre des...
Évidemment. C'est
tout à fait malaisant. T'as une des armes... Il n'y a pas de sniper, mais il y a un arc, et c'est un arc à dildo, forcément.
Évidemment.
C'est que des conneries comme ça, donc c'est assez marrant. Le design est en plus assez bien foutu, les niveaux séparés sont assez courts, on est entre 15-20 minutes, avec des designs qui bouclent souvent sur eux-mêmes, mais où, un peu façon Iron Fury, en fait, on t'encourage à aller quelque part, puis en fait, on te ramène au bon endroit pour aller à la suite. T'as jamais d'aller-retour débile à faire. Voilà, ça marche vraiment plutôt bien. Après, évidemment, faut passer le côté pipi-caca, quoi. Ou alors, faut aimer le côté pipi-caca.
C'est que c'était un peu la subtilité. Enfin, je me souviens avoir vu l'explication du film de Karim Debbache. J'étais là genre, ah oui, ça a l'air...
C'est postal. T'as quand même, dans postal, t'as deux armes, entre guillemets, permanentes. T'as un coup de pied. Alors qui est assez rigolo d'ailleurs, parce que quand t'appuies sur X, en fait, le postal dude donne un coup de pied. Donc une fois, il donne un coup de pied avec le pied droit. Une fois, il donne un coup de pied avec le pied gauche. Puis après, il donne un coup de pied avec les deux pieds. C'est quand même assez bizarre parce que tu te casses pas la gueule ni rien, quoi. C'est vraiment... T'as quand même tout un tas de trucs un peu chelous comme ça. Et ta deuxième arme que tu as tout le temps, c'est que tu peux faire pipi. Sur tout et sur tout le monde.
C'est important.
Et t'as des bonus. C'est-à-dire que tu peux boire... si tu bois de la tequila, par exemple, tu vas faire pipi enflammé. Donc tu vas enflammer les ennemis. Si tu bois du... Alors je sais plus, je crois que c'est du liquide de refroidissement de bagnole. Bah tu vas faire pipi glacé, tu vas glacer les ennemis. C'est très très con. C'est vraiment très con. C'est du second degré. Voilà. Mais bref, ça marche assez bien comme petit shooter. En plus, un peu comme Prodeus, t'as une aim assist. Alors il n'y a pas de gyroscope malheureusement, c'est un peu dommage, peut-être le seul détail un peu relou. Mais t'as une assistance à la visée qui est quand même très généreuse. Donc ça fait que même si tu te mets dans des niveaux de difficulté un peu élevés, ça passe bien. Ça passe même très très bien. Voilà, bah écoutez, on a fait un petit peu le tour de la sélection. Putain, il est tard.
Et ouais, long. Et 22h30, l'heure habituelle.
Bordel. Bref, je suis très content d'avoir fait cette émission. Je sais pas ce qu'on fera dans 2 semaines. Est-ce que ça te tenterait de faire du Civilization?
Bah écoute, moi j'ai pas encore joué au 7, mais parler des autres, ça me fera plaisir.
Bah écoute, moi j'ai joué au 7 et par les autres, je les connais pas si bien que ça. Donc en fait, ça peut être un bon complément.
Ah bah, let's go.
Moi, j'ai juste joué au 2.
Eh ben c'est bien, ça nous permettra de voir tout, parce que je suis sûr qu'il y a des choses qui sont restées du 2.
Oh non, mais c'est... Alors, on en reparlera, mais ils ont une philosophie de design pour les suites qui est assez intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire sur la série.
Je pense que de manière générale, il y a pas mal de trucs à dire.
Parce que c'est quand même un truc qui date des années 90, donc il y a eu beaucoup d'itérations. Et des gens qui ont essayé de faire pareil aussi, donc c'est intéressant.
Ouais, il y a quelques... Puis dans le secteur du jeu de gestion stratégie, il a quand même une place un peu à part, un côté un peu particulier. C'est une niche assez particulière. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Je vous propose de faire ça, voilà. Dans 2 semaines, on a fixé ces civilisations. Alors, sauf si, évidemment, on a un gros sujet d'actu qui tombe entre deux, mais là, je pense que c'est mal parti. Ça a l'air d'être très calme.
Oui, bref. Ça devrait aller. Il y a juste comme grosse sortie Xenoblade X, mais... On en a déjà parlé.
Oui, on vous renverra à l'émission. Peut-être qu'on en reparlera quand même. Après tout, pourquoi pas.
On verra.
Bref, en tout cas, on vous fait des gros, gros, gros bisous. On vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao,
ciao, tout le monde.